Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig.
Nous rencontrons aujourd'hui Charmaine Plessner, violoniste et altiste, enfant prodige, confié à la concertiste Fredel Lack à l'âge de 5 ans, avant d'intégrer le célèbre Curtis Institute of Music en Philadelphie. À Curtis, Charmaine Plessner a eu la chance d'être parmi les dernières élèves du renommé pédagogue du violon Yvon Galamian. Le répertoire de Charmaine Plessner est très large, allant du début du XVIIe jusqu'à l'époque actuelle. Un duo avec clavecin, piano ou petite formation de musique de chambre, Charmaine Plessner se produit régulièrement dans des festivals en France et à l'étranger. Elle nous parle ici de son parcours et nous jouera en live le premier mouvement en sol mineur de Johann Sebastian Bach. Puis nous diffuserons l'enregistrement du morceau Kaddish de Maurice Ravel, qu'elle interprète ici avec David Levy au piano. Mais laissons maintenant Charmaine Plessner se présenter.
Je suis née au Texas, à Houston, et ma mère et aussi ma tante, ma tante elle est décédée depuis longtemps, c'était une très grande violoniste et pianiste classique, et même mon oncle qui était altiste amateur, était un excellent altiste, vraiment excellent. Ma mère aussi jouait du piano, mais surtout elle a fait sa carrière comme altiste à l'orchestre de Houston. Et quand j'étais petite, ma grand-mère vivait avec nous. Ma grand-mère n'était pas musicienne, mais elle avait toujours eu envie d'être musicienne. Elle a appris un petit peu de piano, suffisamment pour carrément donner des cours de piano. Et donc elle m'a commencé au piano quand j'avais 3 ans. Mais bon, je n'aimais pas travailler avec ma grand-mère. Elle était très stricte. Elle avait très très peu d'humour. En tout cas, à l'âge de 4 ans, j'ai vraiment harcelé ma mère pour que je puisse commencer le violon parce qu'elle donnait beaucoup de cours en dehors de l'orchestre. Elle travaillait sans arrêt. Soit à l'orchestre, soit à la maison, elle avait peut-être une trentaine d'élèves. Elle est très douée pour l'enseignement aussi. Et je pense que j'étais peut-être un peu jalouse de ses élèves. Et donc pour mes 4 ans, j'avais un tout petit mini-violon, j'ai commencé sur ça. Et bon, oui. C'est vrai que j'étais très douée, ça se voyait tout de suite. Et il y avait une très grande violoniste, vraiment une immense musicienne qui s'appelait Fredel Lack, qui avait entendu parler de moi par d'autres musiciens à l'orchestre. Elle a téléphoné ma mère un jour, elle a dit qu'elle voulait m'avoir comme élève. Elle a dit « I will kick myself in the foot if I don't have Charmaine as a student ». Et c'était la plus grande chance de ma vie parce que cette femme était fantastique, elle était inspirée. J'étais le premier enfant auquel elle a donné des cours. Donc il fallait qu'elle invente une méthode pour une petite fille. J'avais 5 ans avec elle, quand j'ai commencé avec elle. Elle a tout compris. Comment enseigner un enfant. Elle-même, elle avait eu un prof de violon qui était c'est Louis Persinger aux États-Unis. C'était vraiment le professeur de violon pour les jeunes enfants au début du XXe siècle. Et c'était son professeur, je pense qu'elle lui a beaucoup appris des choses aussi. Mais elle était très intuitive et un immense musicien. Elle m'expliquait les choses pour que je puisse les visualiser, que ce soit pour l'archer, pour me raconter des petites histoires. Donc j'ai pu développer beaucoup d'imagination grâce à elle. Et ma mère aussi, beaucoup d'imagination. Elle travaillait avec moi tous les jours. Elle était au piano. Et tout en jouant, elle me corrigeait, je ne sais pas comment elle faisait, mais elle corrigeait mon archer ou la main gauche, tout en jouant. Et c'était quelque chose. Et ça jusqu'à mes 12-13 ans. Et puis je suis partie quand j'avais 15 ans et je suis montée. J'ai eu la bonne idée d'auditionner pour une école qui s'appelait Curtis Institute, qui existe toujours. Et moi, mon seul désir, c'était de quitter le Texas. Je ne savais rien du Curtis, mais j'avais une amie qui était là-bas. Et juste avant d'apprendre qu'il y avait le Curtis comme possibilité, J'avais la possibilité d'aller à Juilliard, ce qu'on appelle pre-college, c'est-à-dire pour les jeunes qui n'ont pas encore l'âge universitaire. Mais je savais que je serais obligée de vivre avec mon prof et qu'elle me ferait travailler 4 heures par jour, minimum. Et j'avais vraiment pas envie de ça, j'avais jamais beaucoup travaillé, pas beaucoup d'heures, hein. Tous les jours, mais pas beaucoup d'heures, juste assez. Et j'ai eu une enfance normale, je n'étais pas cloîtrée à la maison en train de jouer. Je jouais beaucoup dehors, j'avais des amis, on était assez libres. Donc à 15 ans, j'ai auditionné pour Curtis. Et heureusement que je ne savais pas que c'était le meilleur conservatoire aux États-Unis parce que je crois que j'aurais le trac si j'avais su ça. Et c'est après que j'ai appris que j'étais acceptée et j'ai commencé à comprendre qu'est-ce que c'était cette école. C'était vraiment petit, il y avait juste assez d'élèves pour un orchestre symphonique, plusieurs profs de piano, donc un département de piano, un petit département d'opéra et un tout petit mini département pour l'orgue. Apparemment maintenant c'est beaucoup plus grand, mais à l'époque je crois qu'il y avait que 4 élèves en orgue et 4 chefs, jeunes chefs d'orchestre, dont Paavo Järvi, qui était un ami à l'époque, il y a longtemps. Hein. Donc j'ai passé 7 ans dans cette école, mais bon, c'était très dur, parce que en fait on pouvait être viré du jour au lendemain si on n'était pas au niveau. C'était gratuit, c'était le seul conservatoire aux États-Unis qui était gratuit, mais ça leur coûtait beaucoup pour nous avoir. Donc c'était une école qui était sponsorisée seulement par les dons privés. Aux États-Unis il y a très peu d'aide d'État, quoi. C'est vraiment pratiquement que privé. Donc, ils sont toujours un peu inquiets de pouvoir financer d'année après année. Comme à Houston, l'orchestre était pareil. Chaque année, ils ne savaient pas s'ils allaient pouvoir nous renouveler leur contrat. Donc toujours un peu, toujours supplier les entreprises et les donateurs privés. Donc ma cousine, elle était prof à Philadelphia College of Art, une très grande peintre. Elle avait une très belle maison, juste à 20 minutes centre de Philadelphie. Donc j'ai passé mes 2 premières années dans sa famille, dans cette maison. J'avais foi tout le temps, parce que quand on vient du Texas, on n'est pas habitué à ce climat, c'était très très dur. Et puis quand j'avais 17 ans, j'avais envie de vivre en ville. J'en avais marre de vivre dans cette famille qui était adorable. Enfin, ils étaient très gentils, mais beaucoup plus stricts que... chez nous, dans ma famille du Texas. Donc à 17 ans, j'avais mon premier appartement. Wow. Et bon, j'étais un peu, comment dire, un peu indisciplinée au début. J'avais du mal à travailler toute seule. D'ailleurs, mes 2 premières années, j'ai failli être virée parce que je ne travaillais pas du tout en fait. Et on nous envoyait pour nos cours privés de violon à New York. Mon professeur, ces 2 premières années, était Yvan Galamian. C'était le professeur de violon aux États-Unis. Il était redouté par tout le monde. Il avait la réputation d'être terrible. En fait, il était très gentil. Il était beaucoup, beaucoup d'humour. Il était assez âgé à cette époque-là. Donc, je pense qu'il avait perdu un peu de sa fougue. Mais en tout cas, avant mes cours, je ne dormais plus parce que je savais que je n'avais rien fait depuis le dernier. Et vraiment, je n'arrivais pas à travailler. Sorti le violon et puis je pense que j'étais un peu déprimée. Les 2 premières années, j'avais pas d'amis, j'étais loin de ma famille, il faisait froid tout le temps, il fallait que je me lève tôt pour aller prendre le train pour aller à Philadelphie et puis aller à Curtis qui était très très... c'était une atmosphère, on se sentait espionné tout le temps. Il y avait une atmosphère très, très conservatrice. C'est le Nord quoi, c'était le Nord, c'était... comment dire, des Yankees. Hein. Parce que dans le sud, au Texas, le ciel est immense, tout est grand, on se sent libre. Là-bas, c'était une ville, c'était gris, c'était bruyant, c'est... il faisait froid. Enfin, donc je me suis habituée. Et malheureusement, à la fin de ma deuxième année, M. Galamian est mort subitement. Voilà. Et après, je me suis habituée à cette vie. Et j'ai fini par aimer... aimer être à Philadelphie. Et puis on a vécu des choses fantastiques à Curtis. Parce qu'on avait tous les grands chefs qui venaient diriger l'orchestre de Philadelphie venaient nous diriger aussi le samedi matin. Pratiquement toujours les chefs invités venaient aussi chez nous. Et puis on avait trois orchestres 3 jours par semaine, 3 fois par semaine. On avait musique de chambre, nos cours privés 1 fois par semaine. Et heureusement pour moi, au niveau académique à l'époque, il n'y avait presque rien. Quand j'avais que 15 ans, on était que 7 ou 8 élèves qui n'avaient pas l'âge universitaire. Donc on était tous dans une petite classe. Il y avait plusieurs étrangers qui parlaient à peine anglais. Et moi, c'est vrai que c'était un peu n'importe quoi, mais j'étais contente de ça. Parce qu'une des raisons qui m'a donné envie de quitter Houston, c'est que j'étais vraiment en retard pour mes études, parce que j'ai raté beaucoup de jours de lycée. Et puis, j'étais absolument pas du tout à ma place. Parce que, qu'est-ce que les choses les plus importantes au lycée, dans le Texas, à Houston, c'était le football, fallait être populaire, donc ça veut dire blonde, jolie, bronzée, et c'est tout. Hein. Voilà, donc quand on est un petit peu moche, comme j'étais à l'époque, hein, jouer du violon, on est super ringard. C'était vraiment pas ça du tout. Hein. Je me sens très très fière d'être partie comme ça.
Ouais.
C'était pas du tout mon monde. Quoi. Mais bon, malheureusement, pendant mes années à Curtis, j'ai perdu 2 proches, ma petite sœur et aussi mon frère. Donc ça a rendu difficile. Ma dernière année, mon frère est mort. Et j'aurais dû rester 1 an de plus et j'ai décidé d'arrêter là. Et donc j'ai eu un diplôme. J'aurais pu rester 1 an de plus et avoir un degree. Ça veut dire juste une 4e année de solfège et de... des trucs qui n'ont rien à voir avec le violon. Hein, c'est juste contrepoint et solfège. Et j'en avais marre, quoi. J'avais été là pendant 7 ans. Et après, j'ai vraiment décidé que j'avais envie de venir en France. C'était déjà une idée depuis quelques années. On est venu 2 fois avec l'orchestre de Curtis en France. Jouer dans un festival à Yverdon-les-Bains, un très bon festival. On a accompagné Gedon Kremer, Sophie Mutter, Sir Lebec, Henrik Schering, qui d'autre. Oui, vraiment des stars. Et à l'époque, ils étaient plus ou moins... Enfin, par exemple, Gedon Kremer, il était au début de sa carrière. Anne-Sophie Mutter, elle avait quoi, 20 ans, 22 ans, tout comme ça. Et c'était génial. On a joué avec tous ces gens. Et après, on est venu à Paris, on a joué sur le Grand Échiquier aussi. Mais moi, je suis tombée amoureuse de la France, vraiment amoureuse. Le charme de la vie, espèce de... Je sais pas, je trouvais ça... C'était un peu pittoresque. Je trouvais que par rapport à la vie aux États-Unis, qui est un peu dure, qui manque un peu de ce côté savoir-vivre, des choses de finesse. J'étais vraiment, vraiment amoureuse de ce pays. Et même d'autres élèves ont dit « Ah, on dirait que tu ressembles à une Française. » Donc j'avais vraiment envie de venir ici. Je ne savais pas comment. Et un an après mes études à Philadelphie, quand j'avais fini mes études, bon, j'étais un peu perdue, je ne savais plus quoi faire. La plupart des élèves, quand ils quittent le Curtis, ils montent à New York, ils vivent à Manhattan. Et pour moi, c'était hors de question de vivre dans une ville comme ça. Je n'avais aucune envie de ça. Je n'avais pas envie de rentrer dans un orchestre symphonique, commencer à auditionner, avoir cette vie-là. Je n'avais pas envie de ce qu'on appelle « the American dream », le rêve américain, où juste on achète une maison et puis une voiture et on essaie d'avoir un poste stable. J'avais envie de vivre comme un artiste. Et j'ai décidé que, je ne savais pas comment, mais j'allais venir à Paris. Et entre-temps, on m'a demandé si je voulais aller en Égypte pour ouvrir le nouvel opéra qui venait d'ouvrir. Et c'était l'opéra de Houston qui était invité pour faire ça. Et donc, je faisais partie de l'équipe. Et quelques jours avant de partir, j'ai appris que l'avion s'arrêtait à Paris. Et donc, ça y est, j'ai dit à la dernière minute à tout le monde, mais moi, en fait, je ne vais pas revenir à Philadelphie. Je vais juste rester en France. Et bien, je suis descendue de l'avion à Paris. Je suis venue avec 2 énormes valises. Et les autres musiciens m'ont demandé pourquoi. Je dis, en fait, parce que je ne vais pas revenir avec vous. Mais c'était dur. Je ne savais pas du tout que ça allait être difficile comme ça. J'avais quelques amis qui étaient venus en France aussi.
Tu avais quel âge à ce moment-là?
J'avais 25 ans. Donc, j'aurais dû J'aurais dû être un peu plus, comment dire, mondaine, mais bon, c'était pas le cas. Je me suis dit, bon, on a un truc chez nous, américains, c'est qu'on pense que tout est possible, hein, que ça suffit juste de vouloir assez. Ce qui est un peu vrai, mais entre ces deux côtés-là, il y a aussi le truc, oui, mais ça va être difficile. Mais ça, je ne savais pas que ça allait être aussi difficile. Et je suis restée plusieurs années à travailler comme ça, un peu au black. Je suis allée en Allemagne aussi, je travaillais là-bas, dans un orchestre de chambre. Bon, j'ai vécu plein de choses. Non, mais je me sentais invisible là-bas. quand je descendais dans la rue, les gens, ils ne se regardaient pas. Puis, je ne sais pas, j'avais l'impression d'une froideur, un peu comme ce que j'ai vécu à Philadelphie, une atmosphère un peu froide. Et à chaque fois que je venais revenir en France, j'arrive à la gare du Nord et ça y est, c'est la vie. Les gens se regardent, c'est un peu le bazar, mais c'est la vie, quoi, c'est la vie. Mais en même temps, j'apprécie beaucoup l'Allemagne pour d'autres choses, pour le côté très respectueux de la nature, parce que j'ai beaucoup travaillé comme en Allemagne. Je travaille à Göttingen pendant plusieurs années pour le festival de Handel. J'ai fait beaucoup de tournées aussi avec des ensembles de baroque comme par exemple les musiciens du Louvre ou l'ensemble de baroque de Limoges, des groupes comme ça. Donc je connais pas mal.
Donc est-ce que tu t'es installée à Paris au final ?
Oui, je suis venue à Paris, mon premier appartement. C'était affreux. La seule chose que j'ai réussi à louer, c'était une minuscule petite chambre de bonne à la porte de Clignancourt. Et c'était affreux. Donc du coup, j'ai tout refait à l'intérieur. J'ai sous-loué. Je ne savais pas que c'était interdit à la personne qui me l'a sous-loué. C'était toute une histoire. Et j'avais complètement refait l'appartement parce que c'était vraiment ignoble quand je suis arrivée. Il avait laissé toutes ses affaires, les meubles pourris, et j'ai tout balancé. J'ai enlevé au moins 5 couches de papier peint, j'ai tout repeint en blanc, j'ai acheté quelques petits meubles sympathiques, dont un armoire adorable dans le marché aux puces, qui était juste en face du périphérique. Et quelques mois après, en fait, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que j'étais déjà mariée. J'avais laissé mon mari à Philadelphie parce qu'il finissait ses études. Il était en train de finir un doctorat. Et il savait que j'avais envie de vivre en France plus que tout. Donc il venait faire des allers-retours. Et heureusement, ses parents nous ont acheté un appartement dans le 19e. Donc je n'étais pas obligée de rester longtemps à la porte de Clignancourt. Mais entre-temps, j'avais fait un appartement adorable. Et quand la personne qui me louait a appris qu'on partait, il voulait tout de suite que je rembourse le caution, qui était 2 mois de caution. Et bien sûr, nous, on voulait qu'il nous rembourse la caution. Parce que, bien sûr, j'ai mis au moins le 4 fois ça pour taper l'appartement. Il a dit, pas question, il faut remplacer tous les trucs que tu as jetés. Bien sûr, c'était que des choses affreuses. Je ne pouvais pas les remplacer. Et j'étais prêt pour tout laisser. Et du coup, on a laissé l'appartement dans un pas très bon état, on va dire. Voilà. On a choisi d'être près du parc de Beauchemin parce qu'on avait un chien, un très joli chien, un lévrier. Et lui, il fallait le sortir au moins 3 ou 4 fois par jour. Et entre-temps, mon mari continue à faire des allers-retours entre les États-Unis et la France. Et moi, je cachetonnais, je jouais dans les petits orchestres de chambre. Mais c'était vraiment... C'était déprimant, hein, franchement. Quand on arrive de Curtis et on se trouve dans la vraie vie, avec juste le besoin de gagner sa vie misérablement, comme ça, franchement, c'était vraiment déprimant.
Ah oui, c'est le niveau qui était déprimant.
Ah oui,
Et est-ce que tu vois une différence de niveau entre la France et les États-Unis en général ?
Ouais, c'est difficile à dire parce que je n'ai pas trop cachetonné aux États-Unis. J'ai cachetonné dans J'aime pas ce terme. D'ailleurs, oui. Je déteste ce terme cachetonné.
Mais c'était plutôt. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu étais intermittent de spectacle, c'est ça?
Non, pas encore, parce que j'avais pas le droit de travailler en France. J'étais américaine. Donc, du coup, je suis allée en Allemagne pour travailler là-bas. Je suis rentrée dans un orchestre de chambre là-bas. Je suis restée 6 mois. Et bon, c'était compliqué. Entre-temps, mon mari, il a décidé de retourner dans son pays d'origine, qui était Israël. Et moi, je suis restée en France. Donc, en France, en Europe. J'étais en Allemagne à l'époque. Et comme j'ai décidé que je voulais vivre en France et pas en Allemagne, il fallait trouver une solution. Donc, je me suis inscrite. Entre-temps, je me suis intéressée à la musique baroque, mais vraiment de façon très sérieuse. J'ai décidé de l'étudier. J'ai fait des masterclass avec Reinhard Goebel, qui était un très très grand génie du violon baroque en Allemagne, à Köln, Musique antique de Köln. J'ai fait des masterclass avec lui. Il m'a embauché tout de suite. Donc j'aurais pu rester dans son ensemble de travail là-bas, parce qu'en tant qu'Américain, j'avais le droit de travailler en Allemagne. Mais j'avais envie de vivre en France. Donc, du coup, on m'a demandé si je voulais travailler pour le cinéma muet, pour un compositeur sur Montpellier. Mais pour ça, il fallait que que j'ai le droit de travailler. Donc je me suis inscrite au conservatoire de la rue de Madrid à Paris, en 3e cycle. Et j'avais avec ça le droit de travailler 20 heures par semaine. Mais en fait, c'était extrêmement ennuyeux. Je suis allée un petit peu. Là où j'ai vraiment appris à faire du violon baroque, c'était dans les orchestres. Hein. Tout de suite avec Musique Antiqua. Et après, j'étais embauchée chez Marc Minkowski, les musiciens de Louvre. C'était drôle parce que j'avais déjà été embauchée par Goebel de faire des tournées et d'enregistrer. On avait déjà fait des concerts en France avec Musique Antiqua Cône. En même temps, j'ai rentré chez Minkowski et lui avait une tournée. La première chose que j'aurais fait avec lui, c'était de jouer à Houston, de faire Dino et Aimé de Purcell. Et il fallait que je choisisse entre les deux, parce que c'était l'un ou l'autre. Soit je reste avec Goebel, ou sinon, si je dis non au musicien de Louvre, à Marc Minkowski, peut-être qu'il ne va plus jamais m'appeler. Donc j'ai décidé de plus aller en Allemagne et de rester en France avec les musiciens du Louvre. Et j'ai aussi travaillé beaucoup à cette époque-là avec l'orchestre des Champs-Élysées, avec Philippe Hervègue. Puis bon, ça, c'est très très vieux tout ça. Mais bon, c'est comme ça que je suis restée en France. Et après, j'ai rencontré mon deuxième mari qui est le père de ma fille. Bon, nous ne sommes plus ensemble, mais j'ai quand même une fille qui a maintenant 25 ans. Je travaille beaucoup à l'orchestre de Montpellier, mais j'ai fait plein de projets aussi.
C'est à ce moment-là que tu es venue à Montpellier?
Non, en fait, j'ai connu Montpellier parce que je commençais à travailler pour un compositeur de cinéma muet à Montpellier. On a fait plein de tournées au Maroc, en France, on a joué même en Amérique du Sud, hein, on a fait plusieurs spectacles. Hein. En fait, l'ingénieur du son est devenu mon mari.
Sherman, qu'est-ce que tu voudrais nous faire écouter pour l'émission? Spontanément, est-ce que tu voudrais nous jouer quelque chose?
Je vais essayer un truc, mais je n'ai même pas travaillé cette fois. Donc, je vais voir si ça marche. Je vais jouer le premier mouvement de la sonate en sol mineur de Johann Sebastian Bach. Et je ne l'ai pas préparé, donc attention. Thank you.
Mille merci, Sherman.
C'était pas parfait. Hein.
Ah, c'est beau.
Je n'avais pas prévu ça aujourd'hui.
On se retrouve la semaine prochaine avec notre nouvelle invitée.
Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig.